Vous écoutez On lit pour vous.
Le projet Réalité franco-queer, perspective racisée. Un rapport du comité franco-queer de l'Ouest paru sur le site du CFQO. Des statistiques et des personnes. Démographie francophone et immigration. Les immigrants-immigrantes constituent 26,5% de la population francophone en Alberta, où cette dernière représente 2,1% de la population totale de la province. Recensement 2016. Expérience des personnes 2SLGBTQIA+ ethnoculturelles. Les individus queer appartenant à des groupes racisés signalent des taux plus élevés d'isolement scolaire, une moindre acceptation de la part du personnel scolaire et plus d'expériences d'intimidation ou de limitation au travail en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Rapport 2017. Besoins des immigrants, immigrantes et réfugiés francophones 2SLGBTQIA+. Des services généraux d'établissement et d'intégration ouverts et sensibles à leur identité 2SLGBTQIA+, en français et dans des espaces sécuritaires. La nécessité de rencontrer d'autres personnes 2SLGBTQIA+. L'inclusion au sein de leurs différentes communautés. Révélation de l'identité sexuelle parmi les immigrants, immigrantes et réfugiés. 56% ne révèlent jamais leur orientation sexuelle, identité et de genre lors de la recherche de services. 27% la révèlent seulement parfois ou rarement. Principale raison pour ne pas dévoiler leur identité, sentiment que cela ne regarde pas les prestataires, 53%. Inconfort à en parler, 50%. Crainte de mettre mal à l'aise le prestataire, 30%. 94% des participants, participantes d'origine africaine et caribéenne, expriment des craintes concernant l'itinérance et l'insécurité liées à leur identité sexuelle ou de genre et à leur couleur de peau, surtout en contexte de colocation. Suggestions pour l'inclusion dans la communauté francophone. Besoin d'une éducation accrue sur les enjeux 2SLGBTQIA+ en français. Appel à une éducation inclusive dans les écoles et à la mise en place d'événements et de lieux de rencontre. Reconnaissance accrue de la diversité au sein de la communauté francophone, en particulier pour les membres non-blancs. Un voyage aux confins des identités et perspectives. Dans le cadre du projet Réalité franco-queer, perspective racisée, nous nous engageons à tisser un pont entre les cultures, les identités et les expériences au sein de la riche mosaïque des communautés francophones de l'Alberta. Cette initiative, portée par un désir profond de compréhension et de représentation, vise à mettre en lumière les voix des membres des communautés racisées, qu'ils s'identifient ou non au spectre 2SLGBTQIA+, afin de recueillir et de partager leur perspective unique sur les enjeux queer. Mission et processus, un portrait vivant et nuancé. Notre mission est de créer un échantillonnage éclairant, un outil de sensibilisation et de dialogue qui reflète authentiquement les réalités et les aspirations de ces communautés. À travers un processus méticuleux de recrutement, de recueil de témoignages et d'entretien personnel, nous ambitionnons de dresser un portrait vivant et nuancé des expériences queer racisées en Alberta. À la croisée des voies, l'aventure de Falaire. Au cœur de la pittoresque ville rurale de Falaire, Alberta, connue pour son ambiance accueillante et sa communauté chaleureuse, le projet Réalité franco-queer perspective racisée a pris son envol. Un rassemblement unique et diversifié. Dans ce cadre idyllique, entouré par les vastes étendues de terres agricoles et le ciel infini de l'Alberta, nous avons rassemblé un groupe diversifié et vibrant de participants, participantes, venus partager, apprendre et tisser des liens autour des enjeux queer. Cette rencontre, première de son genre dans la région, a été marquée par un esprit d'ouverture et de non-discrimination. Dans un cadre à la fois intime et expansif, les participants, participantes, ont eu l'occasion d'échanger librement sur leurs expériences, leurs défis et leurs espoirs liés à la vie queer au sein des communautés racisées. Atelier de sensibilisation, un moment fort. L'un des moments forts de ce rassemblement a été l'atelier de sensibilisation aux enjeux de SLGBTQIA+. Animé par des personnes passionnées et éclairées, cet atelier a offert aux convives une occasion précieuse d'approfondir leur compréhension des diverses identités et expressions de genre, ainsi que des défis spécifiques rencontrés par les personnes de SLGBTQIA+ dans différents contextes sociaux et culturels. À travers des présentations interactives, des discussions de groupe et des exercices de réflexion, cet atelier a non seulement éduqué, mais aussi inspiré, ouvrant la voie à un dialogue enrichissant et à une prise de conscience accrue. Vers un avenir inclusif et respectueux. Ce rassemblement à Falaire a marqué le début d'un voyage collectif vers une meilleure reconnaissance et célébration de la diversité des réalités queer au sein des communautés racisées de l'Alberta. En créant un espace de dialogue et d'apprentissage, nous avons posé les premières pierres d'une fondation solide pour notre projet, illustrant parfaitement l'engagement de notre communauté à promouvoir l'inclusion, le respect et l'égalité pour tout le monde. Ce qui a été dit. Yvan Toucault, la Connexionale. Il y a l'importance de désapprendre et de réconcilier de nouvelles manières de penser qui ont été imposées par la colonisation. Dona Mpunga, Centre pour les nouveaux arrivants de Grande Prairie, GPCN. Les gens queer doivent recevoir le même niveau de service que tout le monde, avec des particularités spécifiques pour leurs besoins. Gina Malaba, University of Alberta's Black Students Association. Les étudiants, étudiantes noires devraient avoir l'opportunité de naviguer à travers leurs identités queer en ce qui concerne leur foi et leur communauté. Victor Yin, Comité franco-queer de l'Ouest. Naviguer l'intersectionnalité d'être à la fois queer et racisé représente un véritable défi. Au sein de ma culture, l'existence queer est fortement stigmatisée et la langue dans laquelle je communique avec mes parents étant celle dans laquelle je me sens le moins à l'aise, je me trouve dépourvu des mots nécessaires pour leur exprimer mon identité véritable. Pour moi, la quête d'un sentiment d'appartenance peut s'avérer être un véritable projet de vie. Nicole Muloko, Coalition des femmes de l'Alberta. Il me semble qu'à un moment donné, toutes les petites couches de discrimination s'accumulent et commencent à peser lourd sans qu'on s'en rende compte. Donc, parfois, les gens fonctionnent au quotidien avec des fardeaux très lourds sur leurs épaules. Si on peut faire quelque chose ici et ensemble, si on peut ôter une toute petite couche de discrimination et alléger le fardeau, c'est déjà une bonne contribution. Pierre Landry Muir, la Fondation franco-albertaine. J'aimerais que la francophonie albertaine soit une communauté où tout le monde puisse se sentir accepté et respecté. Métonym, francophonie albertaine plurielle. Je pense qu'il s'agit d'empathie, de respect de la vie humaine et de reconnaissance de la sensibilité ainsi que de la capacité de voir au-delà de votre propre existence. Rose Eva Forgue Jenkins, Comité franco-queer de l'Ouest. L'apprentissage est une belle route qui peut nous mener à l'acceptation de l'autre. Parler aux autres et apprendre leur histoire personnelle nous mène à une compréhension de leur humanité. Je pense qu'il faut toujours rester ouvert à apprendre plus sur ce qui rend les personnes complexes, leurs défis, succès, souffrances et joies. Chuck Odenigbo, Comité franco-queer de l'Ouest. Même si la majorité de nous ne fait pas partie de l'histoire de la francophonie albertaine, on fait partie de son avenir. En choisissant ce lieu significatif pour notre réunion, nous soulignons l'importance de notre mission, enrichir la francophonie pour qu'elle reflète notre diversité. Notre objectif est de créer une francophonie albertaine ouverte, respectueuse et unie, en dépit de nos différences. Et demain, dans le voyage intime et parfois complexe qu'est l'exploration des enjeux queer au sein des communautés immigrantes, nous rencontrons des défis uniques. Le poids des tabous, le manque d'éducation sur la diversité des genres et des orientations sexuelles et les conflits potentiels avec les croyances religieuses ou culturelles. Face aux obstacles, une quête d'expression. Ces obstacles peuvent rendre difficile pour certains de s'exprimer librement ou de s'engager pleinement dans ces discussions. Pourtant, il est essentiel de reconnaître l'importance de rester ouvert et inclusif, car l'inclusion ne signifie pas l'abandon de nos racines, de notre foi ou de nos traditions. Au contraire, elle offre une opportunité de réfléchir sur la manière dont nos croyances et pratiques peuvent coexister harmonieusement avec un respect profond pour la diversité humaine. Le chemin vers l'inclusivité. Il existe un chemin vers l'inclusivité qui respecte et honore la complexité de nos identités individuelles et collectives. Ce chemin implique l'écoute, l'apprentissage et l'ouverture d'esprit, ainsi que la volonté de remettre en question et d'élargir nos perspectives. En s'engageant dans ce voyage, nous découvrons que chaque personne navigue à travers des intersections complexes d'identité, soulignant l'importance d'accueillir chaque individu dans toute sa complexité. Trouver des principes d'acceptation dans nos traditions. En fait, beaucoup trouvent dans leur propre tradition des principes de compassion, d'amour et d'acceptation qui soutiennent l'inclusion des personnes de LGBTQIA+. L'invitation est donc à embrasser une attitude qui allie respect des différences et fidélité aux valeurs profondes, reconnaissant que l'amour et le respect mutuel peuvent transcender les frontières culturelles et religieuses. Des idées pour l'inclusion. Établir un groupe de ressources pour les personnes racisées et ou queer dans votre organisation. Soutenir et participer dans des événements et initiatives dans votre communauté qui promouvoient l'inclusion et un sens d'appartenance. Faire un effort pour écouter et comprendre les gens et leurs expériences vécues dans votre milieu, entourage. Vers une communauté unie et inclusive. En créant des espaces où les conversations difficiles peuvent avoir lieu dans un esprit de respect et de compréhension mutuelle, nous ouvrons la voie à une communauté plus unie et inclusive, où chaque personne, indépendamment de son origine ou de son identité, se sent valorisée et acceptée. C'est dans cette union des cœurs et des esprits que réside notre plus grande force, nous permettant de construire ensemble un avenir où chacun peut vivre authentiquement, en paix avec soi-même et en harmonie avec les autres. C'était le projet Réalité Franco-Queer, Perspective racisée, un rapport du Comité Franco-Queer de l'Ouest paru sur le site du CFQO.
Une musulmane humiliée après avoir dû retirer son hijab à l'aéroport de Toronto. Un texte de Maggie Wilcox avec les informations de Mike Arsenault, paru le 25 juin 2025 sur Ici Manitoba. Kazi Amin dit avoir été forcée de retirer son hijab alors qu'elle tentait d'embarquer sur un vol de Flair Airlines. La femme de Winnipeg affirme s'être sentie humiliée par l'incident. Kazi Amin s'est rendue au Bangladesh avec son mari et ses enfants pour rendre visite à leur famille. Au retour, elle a dû changer d'avion à l'aéroport international Pearson de Toronto. Avant d'embarquer dans cet avion, Kazi Amin a été arrêtée par un employé. L'employé de la compagnie aérienne a pris mon passeport, l'a regardé, m'a regardé et m'a dit que mon passeport ne correspondait pas à mon visage et que je devais donc enlever mon hijab. Raconté, assuré, quasi Amine. Le hijab est un vêtement religieux porté par certaines femmes musulmanes. Asie Amine et son mari ont tenté d'expliquer qu'elle ne pouvait le retirer pour des raisons religieuses, mais le personnel a refusé de les écouter. Une expérience humiliante. Kazi Amine s'est sentie humiliée et impuissante durant cette interaction. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai enlevé mon hijab en public. Nous n'avons pas le droit de l'enlever en public. Nous ne pouvons le faire qu'en présence de notre famille. La photo sur le passeport de la résidente de Winnipeg date de 2016, avant qu'elle ne commence à porter le hijab. Elle a expliqué que Flair Airlines lui avait demandé de le retirer parce que ses cheveux semblaient différents sur la photo. Afsara Raida, la fille de Kazi Amine, a qualifié cette explication d'irraisonnable. « Je suis blonde en ce moment. Je peux redevenir brune. Alors va-t-on m'obliger à me décolorer les cheveux sur le champ avant de monter à bord de l'avion? Cela n'a aucun sens », a dit Afsara Raida. Selon le site web de l'administration canadienne de la Sûreté du transport aérien, les passagers ne sont pas tenus d'enlever leur couvre-chef religieux, sauf si cela déclenche une alarme lors du contrôle de sécurité. Or, Kazi Amine avait déjà passé le contrôle sécuritaire, ainsi que la douane, lorsqu'on lui a demandé d'enlever son hijab. Les lignes directrices précisent également que, si une fouille corporelle est nécessaire, les passagers doivent avoir la possibilité de la faire effectuer dans une salle privée. Flair Airlines a indiqué que l'employé concerné était en congé et qu'une requête était en cours. Elle a précisé que ce dernier était employé par AGI, partenaire de Flair Airlines, pour les opérations au sol. Bien que la personne impliquée soit employée par AGI, notre partenaire d'assistance au sol, et non directement par Flair Airlines, nous attendons de tous nos partenaires qu'ils respectent les mêmes normes de respect, de professionnalisme et de non-discrimination que celles que nous exigeons de notre propre équipe, a déclaré le PDG de Flair Airlines, Maciej Wilk, dans un communiqué transmis à CBC News. AGI a présenté des excuses officielles à la passagère, a ajouté M. Wilk. Pour sa part, Afsara Raida a jugé ces excuses vagues. Elle les a publiées sur les réseaux sociaux pour que le public puisse en prendre connaissance et a affirmé qu'elle aurait préféré qu'elle s'adresse directement à sa mère. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont vécu une situation similaire et il ne s'agit pas seulement de femmes musulmanes, a-t-elle indiqué. Afsara Raida affirme également qu'elle consulte son avocat pour envisager une action en justice contre Flair Airlines à la suite de cet incident. C'était une musulmane humiliée après avoir dû retirer son hijab à l'aéroport de Toronto. Un texte de Maggie Wilcox avec les informations de Mike Arsenault paru le 25 juin 2025 sur Ici Manitoba.
TikTok, entraîneur de course, un texte de Marissa Grosguet, paru le 19 juin 2025 dans la presse. De nombreux créateurs de contenu documentent sur la plateforme TikTok leurs entraînements ou leurs compétitions de course à pied, signe du gain d'intérêt pour ce sport auprès des jeunes adultes. De nombreuses vidéos peuvent motiver les sportifs, mais on doit faire attention à celles qui peuvent créer des attentes irréalistes. La tendance. On s'en va courir. Le samedi, c'est ma journée de long run. On va faire un 16 km. Téléphone à la main, veste d'hydratation et lunettes miroitantes bien en vue, Mireille Boutin se filme juste avant de commencer son entraînement. La créatrice de contenu montréalaise, dont plusieurs vidéos TikTok exposent ses courses, montre dans celle-ci l'évolution de sa sortie tout en donnant des trucs. La publication a engendré plus de 20 000 visionnements. Ils sont nombreux, au Québec et ailleurs, à proposer ce genre de contenu sur la plateforme. La tendance traduit la montée en popularité de la course à pied au Québec, notamment auprès des jeunes adultes, très présents sur TikTok. D'ailleurs, 67% des personnes inscrites à l'une des courses du Marathon de Montréal ont de 18 à 39 ans. La COVID a ramené la course à pied au premier plan, et dans les deux dernières années, c'est encore plus marqué, souligne Alexandre Raté, producteur du Marathon de Montréal. C'est comme si maintenant, dans la trentaine, ou bien tu es à l'étape d'une maison et des enfants, ou bien à celle de courir un marathon. Une source de motivation. Caroline Pomerleau et Anouka Tremblay ne comptent plus le nombre de personnes qui leur ont écrit pour dire qu'elles avaient commencé à courir grâce à leurs vidéos. Le couple de trentenaires, des sportives expérimentées, Anouka Tremblay est coureuse et coach et Caroline Pomerleau est championne canadienne du marathon, se donne pour mission de montrer aux femmes que de faire du sport, ça peut ressembler à plusieurs choses. Elles documentent alors leurs entraînements et leur vie sans phare depuis 2022. À l'époque, peu de contenu de course existait en français, mais la situation a beaucoup évolué. Et tant mieux, selon les jeunes mamans qui croient que tout le monde peut courir et que TikTok peut être une source de motivation. Selon Anouka Tremblay, les gens qui donnent des conseils de qualité sont souvent moins suivis. C'est moins punché, plus nuancé, alors ça marche moins. De leur côté, sa conjointe et elle nuancent leurs conseils en parlant par exemple de ce qu'elles ont fait de bien et de moins bien, répondent à leurs abonnés pour les conseiller dans la section des commentaires ou expliquent avec humour les pour et les contre des accessoires qu'elle teste. Et d'angoisse. Courir un marathon, c'est quelque chose de grand, de hors norme, souligne Alexandre Raté. Le visionnement en chaîne des vidéos TikTok de certains influenceurs pourrait toutefois donner l'impression du contraire. En se comparant, sans connaître le plan de course ou la forme physique de la personne, un coureur ou une coureuse pourrait être découragé ou même vouloir se pousser trop fort pour atteindre un standard qui n'est pas la norme. On se diminue par les performances des autres, dit le producteur du Marathon de Montréal. Si ma course est dans 2 mois, que je fais un petit jog, mais que je me compare à celui dont la course est dans 3 semaines et qui fait un 34 km, ça m'affecte. Blaise Dubois, physiothérapeute et fondateur de la clinique du coureur, souligne d'ailleurs qu'un plan d'entraînement est propre à chacun et qu'il est nécessaire de comprendre de quoi il retourne avant de s'entraîner. L'inconvénient des réseaux sociaux, c'est l'abondance de fausses connaissances perpétuées par des gens qui n'ont pas la capacité de parler de course à pied, dit l'expert. Montrez le vrai. Il y a des fois où je finis mon long run et je me dis que je peux continuer, je me sens vraiment bien. Mais là, non. Fallait que j'arrête, lance Mireille Boutin dans une vidéo TikTok. Pour elle, il est impératif de laisser savoir à ses abonnés que tout n'est pas parfait et qu'un entraînement peut moins bien se dérouler ou être plus difficile. Pour sa part, Alexandre Raté constate souvent une grande authenticité en ligne, ce qui permet de mieux démocratiser le sport. Ce n'est pas le cas de tout le monde, toutefois. Certains ont la pression de performer ou de cacher leurs blessures pour ne pas décevoir leur communauté, constate-t-il. Des exemples à éviter. Ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, souvent, c'est ce qui impressionne. Par exemple, une vidéo vue 9,5 millions de fois montre une créatrice de contenu américaine annoncer à son mari qu'elle l'a inscrit, sans l'avertir, à un marathon qui a lieu 24 heures plus tard. Sans entraînement, l'homme court ainsi 42,2 km le lendemain. Évidemment, l'exercice n'est pas recommandé. Si l'exemple est extrême, certaines personnes propagent sur TikTok de mauvaises idées ou même de mauvais conseils. De plus, certaines marques saisissent l'occasion de promouvoir leurs produits sur les plateformes. Un influenceur peut avoir une belle communauté, mais avoir un biais commercial, affirme Blaise Dubois. Il faut avoir la conscience critique de se demander pourquoi on nous pousse telle chaussure plutôt qu'une autre, et se demander ce qui nous convient. L'importance de bouger. Si on peut voir tout et son contraire sur TikTok en ce qui concerne la course, c'est en se tournant vers les créateurs de contenu expérimentés et crédibles, ils existent, qu'on peut à la fois se motiver et bien s'informer, dit Blaise Dubois, mentionnant le compte de la Clinique du coureur. Quant aux vidéos d'influenceurs qui filment leurs courses, toute motivation est bonne à prendre, tant qu'on ne se perd pas dans la comparaison, estiment les personnes interrogées par la presse. Quand je regarde quelqu'un courir, même avec de trop grosses chaussures, je me dis qu'il y a des mythes à défaire. Mais tant que la personne bouge, je suis heureux. Mireille Boutin abonde dans le même sens. Oui, on peut dire que c'est la grosse mode, mais c'est la meilleure mode qu'il peut y avoir. C'était TikTok, entraîneur de course. Un texte de Marissa Groguet, paru le 19 juin 2025 dans la presse.